Les lutins vous rappellent que si vous n'écoutez pas avec une version Spotify Premium, vous n'aurez qu'un extrait de 30 secondes des chansons. Vous pouvez cependant retrouver la playlist de l'émission en suivant les lutins de l'enfer sur les réseaux sociaux. Dans tous les cas, vous aurez accès à toutes les lutineries. Bonne émission!
Bonjour, je suis Sylvain Cossette. Lorsque j'ai entendu dire que les lutins de l'enfer feraient une émission de cover, ça a tout de suite piqué ma curiosité. Eh bien, laissez-moi maintenant piquer votre curiosité. Les lutins lèveront le voile sur le lien entre Corey Hart et le 7 jours. Ils expliqueront aussi pourquoi le légendaire Ronnie James Dio n'est pas resté dans le groupe Black Sabbath. Et ils vous parleront du nouveau Grinder à Beer de Ricardo. Les lutins de l'enfer, c'est du métal, des anecdotes et bien plus.
Une certaine espèce de lutin erre dans les bars métal les plus crasses et vagabonde entre les shows et festivals à travers la planète. Ce sont les lutins de l'enfer.
Salutations à toutes et à tous, bienvenue à ce tout nouvel épisode, l'épisode numéro 13 des lutins de l'enfer. Je suis le lutin O en compagnie des taquins lutin D et lutin K. Comment allez-vous?
Ça va très bien.
Moi aussi, je viens d'enlever mon stock de hockey. Moi, quand j'écoute l'intro des lutins, là, il me semble qu'il faut que je me mette dans la game. Ça fait que je mets mon stock de hockey.
OK.
On a un épisode spécial cette semaine.
Oui.
Que des covers.
Des bons, des mauvais.
Mais que de la reprise, aucune pièce originale. J'aime ça, on vit dans une époque de nostalgie et de reprise, fait que pourquoi ne pas n'en faire un spécial?
On avait fait quelques émissions à l'époque, lorsqu'on faisait la radio, moi et Lutin D, et ça avait toujours été bien accueilli par la prison de Trois-Rivières qu'on salue.
Ouais, ouais. Eux autres, ils aimaient ça, être bagné. quand tu fais une émission spéciale reprise, ils font comme « Ah ouais, c'était tout le temps, ça me rappelle quand j'étais dehors.
» On a été voir, sans plus ou moins le savoir, on a été visiter plusieurs époques et plusieurs styles, alors le métal regroupe tout ultimement.
Ouais, c'était le fun à faire cette émission-là quand même, puis je nous avais fixé comme défi de pas prendre des covers qu'on avait déjà pris par le passé, tu sais. Essayer d'hausser un peu la barre. Parce que oui, il y a des covers qui sont excellents, mais on les avait déjà fait jouer à l'époque. Donc, d'autres choses, même si vous ne nous aviez pas écouté à l'époque, on va probablement faire d'autres albums de covers, puis là, on passera nos restants. Ça fait qu'un œil est crainte.
Ouais.
Est-ce qu'on commence tout de suite ça avec un bloc qu'on a appelé le bloc nostalgie? Lutin Cot est allé chercher du The Doors. Dis-tu ouais, du Doors ou du The Doors?
The Doors. Ah, moi, j'aime bien The Doors. C'est la pièce Whiskey Bar à l'époque qui m'avait fait accrocher sur le groupe. Une légende, ce Jim Morrison, qui a été quand même, je crois, dans l'ensemble, peu repris. J'ai pas entendu tant de covers de The Doors que ça, mais c'est peut-être parce que je me tiens pas à bonne place tout court pour entendre des covers de The Doors. Puis Amorphis, que je pense que c'est un band, que c'est un choix légitime qu'ils reprennent The Doors parce qu'il y a une vibe un petit peu, je me promène pieds nus dans le désert avec Amorphis quand le chanteur chante clean. Donc, je trouve que c'est quand même un bon cover. C'est pas aussi bon que l'original, mais c'est quand même un cover respectable d'Amorphis.
Ça a sorti sur à l'époque de leur deuxième album, ça, ce cover-là. Parce que j'étais curieux, fait que c'était le guitariste qui chantait à cette époque-là. Puis, je suis juste déçu. Ils ont pas fait le solo de 15 minutes dans tout, malheureusement. ils ont coupé ça court.
Ben, solo était variable d'un show à l'autre ou d'un album, d'un best-of à l'autre hein, aussi. Donc,
ouais, ça dépendait où ce que Jim t'a rendu. S'il était rendu qu'à chanter sur du stage, ben, il tirait le solo. Écoute, il attend que Jim revienne.
Ouais, ça, j'ai un show de Doors en DVD. C'est un show de 68. Là. J'avais écouté avec Lutin D. Puis on s'est marré, ça, Jim. Il se pose vraiment en dessous du stage pour excitant. Là. C'est interminablement long. Puis quand il remonte sur le stage, il fait dos à sein. Puis coucou en se retournant. C'est magique.
Ouais, il regarde le guitariste pour le time. Puis tu vois le guitariste là qui dit 2, 3, go! Tu vois ce qu'il est plus là. Et ouais, c'est très bon les Doors.
pour la première pièce du bloc, on est allé encore plus loin si une telle chose est possible. C'est le band allemand The Apocalyptician Reiter qu'on a déjà fait jouer. Qui a refait la toune de Ghost Riders in the Sky. Je pensais que c'était Johnny Cash qui avait fait ça. Effectivement, Johnny Cash l'a enregistré en 79 sur son album Silver, mais c'est une pièce qui a été écrite initialement par Stan Jones en 1948. Okay. Ça avait été enregistré plusieurs fois par Vaughn Monroe, Burl Ives, Peggy Lee et même Bing Crosby dans les années 50.
Mais... Il y a Bing Crosby qui me disait quoi, les autres?
On est un peu moins au courant de la scène crooner des années 50.
Ça nous prendrait un lutin spécialiste pour ça, mais absolument lui, il reste ouais. Avec le Père Noël, tu sais.
C'est ça. Fait que, non, c'est ça. Apocalyptician Reiter ont fait le cover sur leur EP 2006, juste avant l'album Riders on the Storm. Au début, je pensais que c'était Riders on the Storm, le cover, mais non, c'est bel et bien... Ghost Riders in the Sky. Fait que, très bonne pièce qui commence avec une petite intro à Far West. Là.
Parfait. On va aller écouter tout ça au lutin.
De l'enfer!
On vient d'entendre une pièce de Samael, une reprise des Beatles, Helter Skelter. J'ai pas écouté l'original des Beatles, j'ai pas fait ma recherche. Fait que je sais pas si c'est une bonne reprise, le lutin héros me disait que c'était bien.
Ben, moi je la trouve bien aussi, mais c'est pas ce qui ressemble le plus à un original.
Ouais. Bon, mais c'est... Je veux pas nécessairement quelque chose qui va être collé sur l'original non plus.
Ben, c'est la différence entre l'hommage et le cover. Moi, j'aime les covers. Les hommages, moyen pas mal. Parce qu'hommage, t'essaies de garder la toune intacte.
Ouais.
Tu mets pas vraiment ta sauce dessus ou autre. C'est, tu fais un cover pour faire plaisir, tandis que... Ou lancer une carrière avec un cover, c'est tout, on a déjà parlé. C'est casse-gueule, on se fera pas de cachette, là. Mais
c'est
des
très rare que ça marche.
Il y en a un peu plus tard qui ont essayé de faire ça. Ça a quand même bien marché pour eux. Mais... Mm-hmm. On s'en reparlera.
On n'a pas à soir, mais ouais, c'est que ça, c'est ça.
Samael, ils l'ont quand même bien samaélisé la toune, par contre.
Ben c'est ça, on reconnaît bien le son de Samael. Puis c'est si les Beatles auraient sonné comme Samael à l'époque, sûrement que ben c'est ça, les albums des Beatles auraient été fort différents.
Ouais.
C'est sûr. T'es peut-être pas rendu là. Comme Marty McFly l'a constaté.
Ouais, parce que le monde sont pas prêts avec ce bon vieux rock qui déchire.
J'essaye de m'imaginer Samael dans leur époque yéyé. Je sais pas si
Vorf avec la petite perruque.
Ouais, c'est ça.
Non, je pense pas que ça aurait marché. Puis de l'autre côté, leur bassiste Miles Missam aurait été juste trop heureux. Ouais, il est particulier en show, leur bassiste, qui est là depuis, je pense, le tout début, tu disais,
Il est là presque depuis le début, ça fait une couple d'années qu'il a quitté aussi. Là.
Ok, bah, mais... je m'en rappelais même pas.
Ça a été un membre qui était là pratiquement toute la carrière de Samael, là. Puis ouais, c'est ça, il danse beaucoup. Il fait beaucoup aller ses cheveux.
Puis tu sais, les basses qui ont pas de tête, là, dans le fond, que les cordes coupent à la frette, dernière frette, là. Ouais, c'est pas le fun des instruments comme ça. Moi, je trouve pas ça beau. J'aime ça quand il y a une tête, un pommeau de git à la fin. Mais non, lui, ça coupe 7 carrés. C'est ouais.
Bon, il y a pas tout le temps eu ça.
Mais.
Mais.
Justement, t'es allé le voir en show, puis il a vu le dégoût dans ton regard, puis là, il a fait comme « Ah non, plus jamais. »
C'est vrai, il a quitté pas longtemps après, t'as raison.
Mm-hmm. Il a accroché sa base pas de manche.
Non, ben, il a pas tombé à terre à casser, merci, bonsoir. Carrière terminée.
Ouais, ça, c'est un instrument que t'as pas le choix de déposer, hein, il est dur à accrocher. Mais bon, c'est de sa faute, il avait juste à avoir un vrai instrument, là.
En parlant de pas avoir de vrais instruments dans le prochain bloc, les artistes originaux, ça se peut qu'ils se plus tough des fois. On va voir le pop.
Ouais, on est dans le gros pop sale.
Gros pop sale.
Là, je vais vendre un punch. Ouais, ben, on mettra pas Children of Bottom avec Oops, I Did It Again de Britney Spears. Tu sais, je pense quand même un porte-étendard des covers metal des tunes pop. Parce que moi, je trouve que la tune de Britney n'est pas intéressante. Puis celle de Children, il y a une place deux fois dans la tune, dans le fond, qui fait un double kick juste à cause de ça. Ça c'est cool, mais le reste, c'est pas intéressant. Mais le double kick à cette place-là, il est nice.
OK.
Mais non, c'est qu'on va y aller avec Defame, mon groupe d'Italie violent là, préféré. Ils ont fait un cover de Daddy Yankee. Si vous connaissez le nom, vous connaissez sa seule et unique chanson, Gasoline. Non, je n'ai pas fait de recherche sur Daddy Yankee, mais ça sonne tellement What It Wonder d'été du Sud, là, ça fait que.
Mm-hmm. Ouais. Ça serait quasiment drôle, mettez le podcast sur pause puis allez écouter la pièce originale. Juste 3 secondes, vous allez la replacer, c'est sûr. Puis ça rend le cover de Defame encore plus drôle.
Il y a un vidéoclip qui est long à checker, mais dans le clip, c'est concept. C'est un gars qui a un bat de baseball, des chars de luxe puis des chicks. Donc, mais très bon cover quand même. Moi, je trouve que la tune est bonne. Si Daddy Yankee aurait tout le temps sonné comme ça, ben moi, vraiment, j'aimerais Daddy Yankee dans les faits.
Ben ouais, t'aurais acheté son album.
Eh oui. Mais il a fait que l'album au complet, elle sonne comme ça.
Surtout quand il commence « All right, Defamed in the house » ou quelque chose comme ça. C'est assez drôle. La première pièce qu'on va entendre, c'est... l'artiste original, c'est Eiffel 65 avec leur célèbre, probablement seul hit, « Blue Dabadi Badabada ». En regardant un peu, j'ai appris que c'est un band italien, Eiffel 65. Puis pour ceux qui se demandent si la couleur bleue ou quelque chose, ça a une signification, tu sais, qui ont déjà essayé de psychanalyser la toune, ben finalement non, la petite mélodie a été composée par le claviériste, puis elle dit au chanteur « dis n'importe quoi là », puis c'est ça que ça a donné.
Je l'ai eu dans la toute l'après-midi à cause de toi, cette toune-là. Là.
Désolé.
Ouais, j'étais pas de bonne humeur.
Le band qui leur prit, c'est leur collègue italien, Flesh God Apocalypse, rien de moins, qui se sont lancés dans un cover pop.
Ça rentre au poste, la reprise, là, c'est du bon Flesh God.
Ouais, ça dans essoufflant.
Ouais.
Dans le fond, ce qu'ils se sont dit, c'est qu'ils ont relâché ça le 1er janvier 2021, puis ils ont dit on voulait faire quelque chose de léger qui permettrait d'oublier... l'année de mars 2020 qu'on venait toutes de passer. Fait que, voilà. Je pense que c'est mission accomplie. Pour Flesh God, ça met un sourire sur le visage, certain. Blue, Dabadi Dabada, suivi de Daddy Yankee. Oh, lutin.
De la peur. Et nous venons d'entendre Corey Hart repris par James Malone. Donc, James Malone est le chanteur de R6. Il a pas fait ça sous une carrière solo. C'est le Ben, tu veux faire ton cover de Corey Hart, tu fais ça tout seul, loin des autres. Mais c'est un bon cover. J'aimerais ça que Corey Hart chante de même, mais je pense que Julie Masse n'aurait pas été avec. Ça fait que... À moins que Julie Masse chante comme la chanteuse d'Ark Enemy, on sait pas.
Ouais. Un beau duo à Star Academy, eux autres, ils arrivent.
Ils font du gros grindcore. Ça serait cool.
Je sais pas si ça pognerait.
Ça pognerait pas, mais ça serait cool.
Ben, ça ouais. pognerait, c'est Coréa, Percy Mouse. Ils ont TVA et le 7 jours de leur bord. Tu sais, quand t'as 7 jours de ton bord, mais seulement au Québec, tu fais un peu ce que tu veux, là.
Mais quoi qu'on n'entend plus même parler de ces deux-là. Je pense qu'ils avaient fait vœu d'être laissés tranquilles, puis ça a comme marché.
Moi, ouais, ben, je pense qu'ils sont plus au Québec non plus. J'ai aucune idée, ils sont où, là. Ils sont à quelque part la nuit, c'est ce qu'on sait. Elle a pas un genre de toune avec une tour dedans, là. Dans sa tour, dans le milieu de la nuit avec Corey, et voilà.
Mais je sais que Corey avait fait une tournée dernièrement, il y a quelques années.
Mais en vie de lutin immortel, c'est tellement rapide, ouais. Ça, quelques années.
Mais tu le regardes, puis ça paraît pas qu'il s'est passé 30 ans et plus depuis son succès de 83, là.
Moi, ça, tu disais, tu m'apprenais tantôt, c'est moi qui ai choisi la toune, puis tu m'apprends que c'est la première toune ever de sa prolifique carrière d'une toune.
Ouais, première toune de son premier album. Non, mais il y a eu du succès avec Never Surrender aussi. Mm-hmm. Mais à part de ça, j'imagine qu'il... Je pense qu'il avait fait un retour ou quelque chose, en tout cas, des années 90. Puis il a profité du fait qu'il pouvait en faire une en français, fait que ça avait passé un peu plus à la radio, mais me semble qu'il avait tenté un retour au milieu 90. C'est ce que ma petite mémoire de lutin me rappelle.
Mais t'as sa vidéographie à James, à Corey Hart, je veux dire?
Non.
Non, non.
Non, j'ai probablement même pas Sunglasses, mais non.
Ah non. Ah ben tu l'as en cadre, parce que tu peux pas nous le montrer, mais t'as un cadre de la pochette de Carrie Hart avec ses belles lunettes et sa moue.
Mm-hmm, ben je l'ai, mais t'as autographié en plus, c'est pour ça qu'elle est dans mon cadre. Ben
oui. Wow.
Et voilà. On vous la montrera un jour si on y pense.
Ouais. On va mettre ça sur Instagram, ça va être mon dernier post.
Prochain bloc, c'est un bloc baptisé Origine du métal un peu, donc qui a été révisité les premiers bands qui, on peut dire, qui ont commencé à peut-être un peu penser à faire du métal.
Gene Simmons et Alice Cooper.
Ouais, c'est ça. Mais non, c'est en fait, ils sont étroitement liés. La première pièce, c'est de Killswitch Engage qui ont repris Holy Diver de Dio. Et donc, on parlait tantôt de bands qui ont commencé à se faire connaître avec un cover. C'est quasiment le cas de Killswitch. Ça a été une de leurs premières tunes qui a eu du succès, si je me rappelle bien.
OK. Je connais pas assez Killswitch. Je les ai vus en show deux fois. C'était super bon deux fois. Mais c'est ça, je connais pas Killswitch.
C'est dans leur première, mais c'est une excellente reprise. Puis le vidéoclip est super le fun aussi. Fait que... humoristique à souhait, donc... ça a aidé à leur... à se faire connaître encore plus. Là.
C'est ça, ils l'ont repris en 2006 sur l'édition spéciale de As Daylight Dies.
Puis Dio, c'est en 83 aussi. Fait que tu sais, pendant que Corey Hart parlait de ses lunettes fumées, Dio est en train de faire une des tunes les plus connues metal, Holy Diver.
Et voilà.
Puis, qui a fini ça. Avec Julie Mouse? Fuck le metal, moi je me lance dans le pop.
Ben, je sais pas à qu'est-ce qu'il ressemblait, sa blonde à Dio. Je sais qu'il y avait des chats, mais est-ce qu'il y avait une femme? Je sais pas s'il était marié. Je ne connais pas la vie intime de Dio. Il est pas dans le séjour. Non. Corey Hart, il l'est. Voilà.
Appel aux éditeurs de 7 jours. Ouais, malgré que le fait que Dio est mort, c'est peut-être un peu plus tough.
Ouais, là, c'est sûr que de ce temps-ci, mais tu sais, quand M. Michel Louvain est mort, il y avait des articles dans le séjour. Il y a pu en mettre sur Ronnie James Dio également.
C'est vrai.
Mais non. Mais non, à la place, on va visiter la maison de Sacha, je sais pas qui, là, qui fait des émissions à TV, là, à Salut Bonjour le matin, qui sont étroitement liés avec Séjour, puis Sacha, je suis haut.
C'est de la propagande.
Nous, on fait de la propagande, mais métal.
Ouais.
Avec Corey Hart et le métal.
ouais. Donc, Monsieur Dio... Évidemment, il était dans le groupe Rainbow jusqu'en 79, mais juste avant, il a succédé à Ozzy dans Black Sabbath. Il était là pendant 2-3 ans, ça n'a pas tout fait longtemps dans Black Sabbath. Mais donc, ce qui m'amène à la prochaine pièce, qui est celle de Black Sabbath, c'est le groupe Avenged Sevenfold qui ont repris Paranoid. Je sais que c'est pas le seul groupe qui ont fait un cover. Il y a Megadeth, entre autres, mais comme on avait du Megadeth un peu plus tard, spoiler alert, je suis allé avec la pièce d'Avenged Sevenfold qui a enregistré ça assez récemment, en 2020, dans une compilation. C'est ça. Megadeth, leur cover date de 95. Personnellement, je l'aimais mieux, là, mais bon, voilà.
Ben à peu près tout le monde a repris Paranoid aussi.
Ouais, c'est beaucoup ça. C'est un grand classique.
C'est drôle. Moi, j'entends dire que pour Dio, quand il avait remplacé Ozzy, tu disais que ça n'avait pas duré longtemps. Semble-t-il qu'il ne rentrait pas dans les costumes de scène de Ozzy. Donc, c'est la raison pourquoi. Désolé, on a assez investi en garde-robe qu'on va trouver un autre chanteur qui fit.
C'est peut-être
avec
ça.
Avec les manches trop longues qui pendent, il a besoin de tenir son micro.
Ouais, c'est que. Ça a été loufoque, les petits shows qu'il y a eu, mais bon, c'est du passé. Malheureusement, il n'y avait pas de cellulaire à l'époque pour filmer ça. C'est que...
On se fait oublier.
C'était Polaroid.
Il fallait être le doigt rapide hein, pour faire un film en Polaroid.
60 FPS. Tu le passes ton film.
Mais c'est...
Bon.
Mais c'est drôle, quand je regardais Paranoid, je ne savais pas ça. Paranoid vient de leur deuxième album, mais les deux premiers albums de Sabbath ont sorti les deux en 70, à seulement quelques mois d'intervalle. Puis le Sabbath a enregistré la toune en 25 minutes, il en manquait une pour finir l'album, puis ils ont patenté ça dans le studio, et voilà, ils ont composé une des pièces les plus iconiques du genre.
Iconique, ouais.
Ça se situe,
mais c'est vrai qu'à l'époque, ils faisaient souvent ça, deux albums. Les Beatles ont été longtemps à sortir deux albums la même année. Ouais. Donc,
les longs jeux.
C'était courant à l'époque. Aujourd'hui, ils essayent un album aux deux ans.
C'est parce que les Beatles, dans ma tête, ils n'ont pas été ensemble. Ils ont été quelque chose ensemble comme une dizaine d'années, peut-être même moins. Puis ils ont plus que 10 albums. Tout le long de leur carrière, ça a été deux albums par année. Puis,
avec les tournées, tout, pas facile comme vie. Là.
Non.
Ouais. Fait que, imagine en plus, il faut que tu fasses rentrer ton chanteur dans un suit qui ne fait pas. C'est la goutte qui fait déborder le vase.
Ouais. Ouais.
On va écouter ça. Oh, lutin!
De l'enfer!
On vient d'entendre Metallica. Faut le dire avec un accent.
T'es obligé.
Avec la pièce Stone Cold Crazy, repris par le groupe Queen. Donc, on stretch un peu les fondations du métal, mais quand même un band important, Queen. Queen l'ont fait en 74 sur leur troisième album. Et, fait étrange, ça n'a jamais sorti en single, mais ils l'ont presque toujours fait en show. Fait que c'était une de leurs préférées en show.
Ça en dit long, ça, dans ce temps-là.
L'original rentre vraiment... Metallica n'a pas rajouté tant de picking que ça sur cette pièce-là. Puis ce que je trouve super le fun, c'est que j'avais jamais entendu la reprise de Metallica, mais l'original de Queen est sur le jeu Guitar Hero de Metallica. Fait que j'avais joué souvent cette tune-là de Queen, je la trouvais super bonne, fait que je suis resté surpris de... Quand j'avais joué sur Guitar Hero, j'étais resté surpris de waouh, elle rentre en tabarouette cette tonne-là de Queen, puis la reprise est excellente aussi. Là.
Ouais, quand même. Metallica, ils l'ont enregistré en 90. Ils ont participé à un album compilation pour le 40e anniversaire de la maison Disque Electra, sur lequel ils étaient à l'époque. Puis ils l'ont utilisé aussi sur un B-side du single Enter Sandman, qui célèbre ces temps-ci leurs 20 ans. Mais c'est surtout sur le disque 2 de Garage Inc. qu'elle a été plus popularisée.
Il y a beaucoup de célébrations ces temps-ci. Aujourd'hui, c'est la célébration de la Lutine A qui vient de franchir une autre année dans sa longue vie de Lutine. D'ailleurs, elle est dehors sur le terrain. Je l'ai mis dehors pour ce soir. J'enregistre, votre dehors. Avec tes amis, vous allez dehors. Mais bon. Mais je t'aime pareil, mais. Bonne fête.
Voilà. On lui souhaite bonne fête à l'extérieur.
Donc. Oui. Checker ce qui s'en vient, là.
Ah, le prochain bloc, c'est un bloc qu'on a exploré les années sombres du début des années 2000, le nu metal.
Oui,
c'était pas si sombre que ça, c'était une belle époque.
Ouais, c'était une journée nuageuse que tu sais que la pluie ne restera pas toute la journée. Là. C'est, les Black Metalleux sont tristes parce que la pluie. Tu sais, il va y avoir du soleil. Là. Non, le New Metal qui a toujours de la misère à se faire accepter dans la grande communauté métal. Là.
Mais... notre génération, je pense qu'on apprécie parce qu'on a grandi là-dedans un peu, veut pas. C'est plus par nostalgie.
Ben oui. Oui, parce que Power Man 5000 et compagnie, c'est correct, là, mais... quand tu vois le chanteur, il dit « décroche », là.
Ils sortent encore des albums, Power Man.
Ben, le dernier vidéoclip de Power Man que tu m'avais montré, on voyait clairement qu'il était entre deux panneaux de décor, sûrement pendant le tournage du film de Rob Zombie. Puis, ouais, come on, bro, tu sais, fais mon clip entre deux takes. Ça a vraiment pas l'air ça, là.
Yes, bon, on va mettre la caméra à terre, là, j'enregistre, là, et fais tes stepettes.
Qu'est-ce que t'as à faire?
Power Man 5000. Dire qu'à l'époque, quand j'avais entendu ça la première fois, je disais, il me semble que c'est violent. Non.
Tu connaissais pas la violence?
Ben, moi, pour de vrai, comme j'ai déjà parlé, je me suis intéressé tard à la musique, puis j'ai commencé dans le métal, mais c'est ça. Ça n'a pas été long que. C'était autre chose que Power Man, là. C'est Balsagot, Hammerfall.
Lost Horizon.
Et oui, voilà. Ah non! Zyklon, ouais, d'un autre côté. Mais ouais, le Power Metal, j'ai hâte qu'on fasse notre émission de Power Metal. Pour vous, chers auditeurs, on l'a dit, c'est une première partie d'émission Power Metal et la deuxième, violence. Donc, comment qu'on apprécie le Power. Mais ouais, c'est que les années 90, les sombres, vous voyez, c'est vrai, hein, c'était sombre, ça nous amenait à parler de Power, le nu metal.
On explore les facettes les moins le fun. Mais Lutinka, t'es allé avec un des bands quand même marquants de cette époque-là.
Crystal Lake, non?
Non, le band qui a été repris.
Ouais, j'ai pris Elidiens, qui est un groupe russe. Leurs albums sont majoritairement chantés en russe, sauf quelques pièces, dont ce single qui est Breaking the Habit, ou pour Valérie. Casser le Hobbit. Donc, ouais. Breaking the Habit de Linkin Park. Et là, je pense que, tu sais, il va y avoir un petit débat là-dessus. Linkin Park, est-ce que c'est bon, est-ce que c'est pas bon, tu sais. Moi, je trouve que c'était bon.
Les débats.
Moi, j'ai apprécié et j'ai vraiment aimé le premier album. J'ai réussi à apprécier le deuxième parce qu'il y a un de mes amis de l'époque qui disait « Ah, comment, il est bon? » Et là, j'ai force de l'écouter, j'ai fait comme « Ah oui, OK. » Puis après ça, moi, j'ai décroché. Puis là, vu que la radio m'a tué, cassé le Hobbit. Puis tous les paquets des autres tunes, ouais, ça m'a moins intéressé.
C'est passé à jouer beaucoup, en effet.
Ouais, je joue encore.
Il paraît que dans les légendes urbaines qu'un de nos lutins espions avait déjà parlé, c'est Linkin Park et le groupe qui a vendu, c'est l'album dans le fond, le CD physique qui a vendu le plus des années 2000, c'est le premier Hybrid Theory, le premier album de Linkin Park.
Oui, hey, j'ai vu ça quelque part, je me souviens pas où c'est quelqu'un qui m'a dit ça, mais oui, c'est l'album qui aurait vendu le plus des années 2000, c'est Hybrid Theory de Linkin Park quand même.
Juste avant que le numérique arrive. Le numérique est sorti 2 semaines après.
Non, ils ont été chanceux.
Non, c'est quand même bon. Je pense qu'ils ont des bons. Ils ont un bon talent pour écrire. Entre autres, la pièce que tu as choisie, Breaking the Habit, j'ai lu que le chanteur, il avait de la difficulté même à la chanter tellement que. Pour quasiment un an là, au début, parce que lui, ça y rappelait des démons internes là, qui ont finalement, malheureusement, eu raison de lui.
Là. Ouais. Ouais, c'est triste. Ben, c'est un bon chanteur. J'ai bien aimé. Puis l'autre chanteur est pop, moi, je le trouvais un peu moins. Ben, il m'intéressait moins. Mais tu sais, ils ont fait des tunes et tout pour les Transformers. Tu sais, qui sont plus récentes. Là. Il y a un film Transformers avec une de leurs tunes, puis c'est une de leurs meilleures tunes aussi qu'ils ont fait. Mais ouais. Ça, au fil des années, ils sont devenus un petit peu plus mous.
C'est ça.
Comme beaucoup de groupes. Mais ils ont quand même des pièces très solides. Là.
Mais tu parlais du chanteur, du talent du chanteur, justement, quand il est décédé. Je me souviens plus qui avait partagé ça, mais c'était une pièce qu'on entendait juste la track du vocal de Chester sur une des tunes, puis c'était vraiment bon.
Hein, qui poussait bien, ouais. Capable, tu sais. Il était versatile comme chanteur et on le sentait vrai quand il chantait. Tu sais, des fois, il y a des chanteurs qui sont bien bons, mais tu le sens dans leur ton de voix que ça. Ils sont distants. Ça leur tombe pas.
C'est ça. Peut-être un lien semi-douteux. Un autre bon chanteur que j'apprécie bien, Johan Hegg d'Amon Amart. Il a une bonne voix, puis quand ils ont repris cette chanson-là, je trouve que vraiment ça. Sa voix est venue ajouter beaucoup à la tune. Il y a donc Amon Amarth qui ont repris Aerials de System of a Down. Ils ont repris ça en 2011 sur une tune bonus de Surter Rising. Ils ont décidé de faire 3 covers pour un peu surprendre leurs fans qui disaient un peu à raison qu'ils faisaient toujours quelque chose de similaire. Ils ont repris du Kiss puis ils ont repris Balls to the Walls pour faire plaisir au monde. Puis ils disaient pour la troisième tune, ils ne savaient pas quelle faire. Jusqu'à ce qu'il y ait, dans un show au Japon, ils sont allés dans un bar karaoké puis sont tombés sur cette tune-là, Aerials, puis ils ont trouvé qu'elle rentrait bien, fait qu'ils ont décidé de l'enregistrer finalement, mais vraiment, avec leur son qu'ils ont mis, tu sais, on disait tantôt que Samael avait bien samaïlisé la tune, Amon Amarth a très bien amonamartisé l'Aerial, je trouve, puis c'est déjà une pièce que j'aime beaucoup en partant, puis avec leur style puis le vocal de Johan Hegg, vraiment, ça... Ça donne une bonne ambiance à la toune qui est très bonne.
Fait que dans le fond, as-tu une préférence pour une des deux? Parce que tu es quand même un fan de System of a Down et de Amon Amarth, tu sais, se mettre en plug dans toutes les émissions, t'as encore réussi.
Deux fois plutôt qu'une cette fois-ci. Ouais, non, je peux pas trancher. Là. Les deux pièces sont excellentes. Chacun a leur style. Fait que,
t'es vous en jugerez comme parfois. Tes écoutes, comme tu m'as déjà envoyé un lien d'une vidéo de Nickelback, qui avait comme deux vidéoclips de Nickelback jouant un par-dessus l'autre, c'était pareil, tu fais pareil avec celle-là, Amon Amarth et System.
Ah, oh, c'était pénible ça, c'était Someday, puis This Is How You Remind Me. Cherchez ouais, ça, c'était
que.
Dans l'oreille ouais, gauche, il y a une toune. Non, la toune est pareille. Dans le clip, il y a une des tounes qui joue dans le côté gauche, l'autre toune joue dans le côté droit. Ça se confond, là, tu sais, les hooks, tout le drum et que se confond, c'est incroyable. Allez voir
ouais,
ça.
C'est vraiment magique, ça. Non, mais c'est vieux, vieux, vieux. Je sais pas si ça se trouve encore ou ouais. Ça froissait des gens. C'est Avril Lavigne qui a porté plainte pour ça parce que son beau Chad, ça marchait pas, là.
Tu le mettras sur notre Facebook si tu le trouves, le Facebook des lutins de l'enfer.
Ah ouais, bon point. T'as un devoir à faire.
J'en prends note. Alors, System of a Down, suivi de Linkin Park, le bloc Nu Metal cover au lutin. Comment parler de Nu Metal et ne pas parler de Limp Bizkit avec la tune Rollin, repris par le groupe de metalcore japonais Crystal Lake. Donc Rollin qui a bercé mon enfance de secondaire 5. D'ailleurs, quand à notre école, les secondaires 5, on avait le privilège d'avoir un genre de petite cafétéria juste à nous. Et on avait
droit... Comment ça s'appelait ça?
Pas le Club 5, ça c'était où est-ce qu'ils vendaient les bonbons.
Juste dans l'ancien local de Pastoral.
Ouais. On avait une table de poule, puis c'était comme la cafétéria des secondaires 5. En tout cas, je me souviens plus comment ça s'appelait. Je me souviens que ça avait un petit sobriquet.
La Pastoral a pris le bord, puis c'est ça.
Puis ils nous ont mis un écran géant de l'époque, là, tu sais, les affaires énormes que c'était impossible à déplacer. Là. Puis c'était plugué sur Musique Plus, alors évidemment, beaucoup de Limp Bizkit qu'on a entendu à cette époque-là, MTV. C'était très, très populaire. Rollin' qui a été leur troisième gros succès. Sur l'album.
Il y a eu Fate qui était un cover aussi, ouais. Parce qu'ils ont fait plusieurs covers, là, Limp Bizkit. Là.
Ouais. Sur l'album. Ça, c'était sur l'album Hot Dog Flavored Water. Non. Chocolate Starfish and the Hot Dog Flavored Water.
C'est le même album que Nuki, ça?
Mais il y a un album Nuki, c'est l'autre d'avant.
Ouais.
Ok.
Ça, c'était leur troisième. Nuki, c'était sur leur deuxième.
Deuxième, puis il y en avait un avant. Il n'y avait pas une pochette rose?
Non, il me semble que la pochette était rouge, puis j'avais comme un skater qui...
Ouais, le premier skater. Album, c'est ça. Très bon, le premier album, en fait.
Ouais, quand même.
Ben, tu m'avais dit avec Sugar Ray, hein. Je me suis assis, je me suis donné la peine d'écouter Sugar Ray, puis... En effet, c'est correct. Une tonne ou deux que j'ai mis dans ma compil de centre d'achat. Mais ouais, c'était bien Sugar Ray.
C'est ça, parce que le monde ne savent pas, mais Sugar Ray font partie de la scène nu metal du début des années 2000 avec leurs deux premiers albums. Le premier album, c'est Lemonade and Brownies, puis le deuxième album, je me souviens plus.
La pochette illustre une madame dans une position tentante.
Oui. Puis c'est ça, le deuxième album qui a Fly dessus est aussi un album métallisé qui est très bon aussi. Que c'est, je vais vanter Sugar Ray, mais les deux premiers albums. Si vous aimez le nu metal, ben, puis pitchez-vous.
Avais-tu aimé l'album de Vanilla Ice rendu là?
Non, j'ai pas écouté.
Non.
Je vais vous en mettre Sugar Ray d'une prochaine émission. Si jamais je fais un spécial, je vais faire du rock. Je sais pas.
J'avoue, je vais peut-être aller écouter ça. Je suis curieux, il me semble. Sugar Ray, j'ai juste en tête des tunes assez.
Avec Sheryl Crow ou Fly, c'est ça, là. Parce qu'il a fait Monsieur McGrath des duos avec Sheryl Crow. Puis on sait que Sheryl Crow, tu te trompes pas. Tu sais ce que t'as.
Ça vous fait toujours bon, pareil tout le temps.
Tu veux pas écouter de ce qui est bon.
Ouais.
Des insides,
c'est pour ça que moi j'achète pas d'albums de Sheryl Crow. Je sais qu'ils sont tous bons. Même pas
besoin de des surprises. C'est ça, tu veux des surprises, toi. Tu vis dangereusement.
Ça. Moi j'aime ça des fois payer 20$ pour un album pour faire comme Aya et c'est de la merde après 3 tonnes.
Des fois, pendant la première, ça meurt.
Il y a du monde qui aime mieux avoir des valeurs sûres et acheter des gratteux.
Comme il y en a un cover à soir qu'on n'a pas mis, qui est dans la catégorie, mettons, qui a été plus mauvais que l'original. Là. Le groupe Aqua célèbre pour leur pièce Barbie Girl. On fait d'autres pièces. Là, on s'entend que c'est pas un single. Là, ils ont un vrai album. Puis là, les Pop Candyman étaient repris par Rage of Light. Et oh que c'est poche! La chanteuse est pas bonne, le chanteur il est plus pitoyable encore, il y a pas d'âme, il y a pas de vie, c'est la grosse succion de vie comme tune, c'est pas le fun. Mais bon, on passe au vote, on décide de pas la mettre là, on voulait vous épargner, mais une autre pièce, ça vous tente, le Rage of Light, Lollipop Candyman, mauvais.
Il y a quand même des tendances dans les covers, il y a des bands qui sont plus repris que d'autres. D'ailleurs, succès, on n'a pas mis de cover de Metallica. On aurait pu remplir l'émission au complet avec ça.
Mais on va en faire plusieurs.
Ouais. Puis, mais Lutin D, t'as été chercher un artiste qui est peut-être un peu moins souvent repris, mais...
Ouais, le groupe Judas Priest. En fait, c'est que quand on a fait notre recherche, dans le fond, on a mis en commun un peu ce qu'on avait trouvé. Puis là, j'ai remarqué, il y a déjà deux tonnes de Judas Priest, il faut en trouver une troisième. J'en ai cherché une troisième, mais... Ouais, fait que dans ce bloc-là, on a mis Elion, qui est repris par Children of Bottom. C'est sur leur troisième album.
Je pense que c'est sinon, uniquement sur leur single Hate Me en plus à l'époque. Là.
Moi, je l'ai en pièce bonus sur mon album, mais j'ai peut-être une édition qui est sortie par après, là, que des pièces bonus, mais moi, je l'ai direct sur l'album. Puis sinon, Painkiller de Judas Priest encore, mais repris par Death. Qui est une excellente reprise sur le dernier album en carrière du groupe.
Moi, c'est mon album préféré.
Ouais, moi aussi,
j'en ai écouté plusieurs, mais.
Sound of Perseverance, qui moi, je l'ai trouvé très, très bon. Mais je pense que Death, c'est la preuve que c'est un excellent groupe. C'est que la majorité des gens avec qui j'ai parlé de Death, qui aiment beaucoup ce band-là, c'est tout le monde a son album préféré différent, là.
Ouais. Les statistiques avancées tendent vers un album, mais c'est très large quand même.
Doom, son préféré, c'est Human, je pense. Puis si ma mémoire est bonne, l'infâme Dr. Pendragon aimait beaucoup Leprosy.
Ouais, il y a Symbolic que t'aimes bien aussi.
Symbolic, c'est big. Moi, j'aime mieux Individual Thought Pattern avec Genie.
Mais bref, c'est ça. Il y a la barre du choix. Il y avait un DVD également de Death à l'époque, c'est Live in LA 94, là, je sais pas, je me rappelle plus de la date. Là. Un bon show qui quand même moins énergique que Slipknot en show, là, mais c'est quand même un très bon show à regarder. Là.
Ouais.
C'est une dette.
Fait qu'on va écouter tout ça.
Yes.
Violence et reprise. On vient d'entendre une reprise encore une fois de Judas Priest, Breaking the Law d'Ainsi Ferrum. Quand je faisais de la recherche pour quelle pièce je pourrais mettre de Judas Priest pour compléter le bloc, j'ai failli passer par-dessus Ainsi Ferrum parce que je me suis dit, bah, Breaking the Law, j'ai comme, ouais, c'est pas la tune qui rentre le plus de Judas Priest. Puis finalement, j'ai écouté la reprise, puis j'ai fait comme, ouais, ben, la reprise est intéressante. Ils ont mis vraiment la saveur Ainsi Ferrum dedans. Fait que je me suis dit, ben, pourquoi pas?
Voilà. C'est le même que ça marche au lutin.
Ça se prête bien aussi, tu sais, le beat de la toune peut être quand même bien ensiféromisé.
Mm-hmm. Ben, ensiférum, tout s'enféromise, ensiféromise avec la beer.
Ouais. Ouais, y a ça. C'est un ingrédient clé.
Ouais.
Tu sais, quand tu vas chez ensiférum, ils ont pas de sel, mais de la beer, ils en ont. Tu vas faire de la bouffe. Tu rouvres les armoires, c'est une petite salière. De la beer qu'il y a dedans.
Et ça, c'est un keg au milieu de la table, c'est pas du sel. De la bière en cristaux. Fait que t'as ton grinder à bière. Oui, bonjour. Un grinder à bière. Hein, Ricardo, on va y en parler. Tu sais, on a vanté dernièrement son kit de raclette. On dit, Ricardo, on a pensé à un concept. Ta cuisine, ça serait écœurant. La raclette à bière, c'est que. Dans le fond, c'est un peu comme des bocs à slush. Tu sais, tu mets ta bière dedans, ça fait la glace relativement solide, là, parce que c'est frais. Puis,
Il faudrait que tu agèles.
Ouais,
la bière gelée, c'est pas super.
Non, mais un coup, c'est comme quand tu mets du beurre sur des pâtes, mettons, ça fond.
Mais là, dans le dernier bloc, on a été chercher. Ben, c'est comme c'est un stretch un peu, mais c'est un concept intéressant. C'est des auto-covers.
Ouais.
Fait que souvent, les bands, c'est pas aussi rare que je pensais, mais qu'ils reprennent leur propre tune, tu sais, pour différentes raisons. Soit des nouveaux membres du groupe, un nouveau son.
Une tune, un trou à combler sur l'album.
T'sais, Morpheus l'ont fait pour parce que justement, quand ils ont eu leur dernier chanteur, ils ont un album de compil de toutes les vieilles tunes reprises avec ce chanteur-là pour voir comment ça sonne à cette heure.
Moi, le summum dans ça, c'est Amber and Down. Ils ont fait 3 albums avec leur première chanteuse. Puis quand ils ont ramassé la nouvelle chanteuse, c'est un album de leur best-of qu'ils ont fait.
Ouais, best-of réenregistré.
Avec la nouvelle chanteuse, c'était quand même rigolo. Mais là, on n'aura pas d'Amber and Down. Non?
Mais non.
Non.
Et en fait, moi, j'avais pensé à Megadeth qui ont repris à tout le monde. Avec la chanteuse de la Lacuna Coil, j'échappe son nom.
Christina.
C'est une bonne reprise. Ils ont fait un vidéoclip aussi. Fait qu'on peut voir Christina en plus. Youpi!
Oh yes! Ça gagne des plus sur mon échelle de plus.
Mm. Ouais, pis c'est vraiment une bonne pièce de Megadeth en plus.
Ouais.
Surtout à Montréal, il y avait une petite controverse. On est avec l'histoire du tueur de Dawson là, qui apparemment avait dit à tout le monde « Ah, écoutez cette toune-là » ou je sais pas trop, parce qu'il était suicidaire. Mais Megadeth ont toujours nié que ça c'est pas une toune de suicide. Là, c'est comme... c'est plus quelqu'un, un mourant. Ça peut être de cause naturelle. Là, c'est ça qu'il pense quelques secondes avant sa mort. Fait que...
Moi, je suis d'accord que, comme disait Dee Snider de Twisted Sister, dans la toune, t'entends ce que tu veux entendre.
Ouais.
Ouais.
On fera jamais porter le chapeau à une toune pour quoi que ce soit. Je trouve que c'est un ridicule. Même Deicide avec leur classique Kill the Christian. Même si c'est juste 3 minutes de temps qu'ils disent.
Non, les anciens Romains, ils écoutaient juste ça puis check ce qui est arrivé.
Ben, il n'existe plus ces anciens Romains-là.
Une excellente pièce. Même, on parlait de bière, Megadeth, ils ont fait une excellente bière. Ben, ils ont collaboré avec Unibrew pour faire une excellente bière, là. La à tout le
la
monde.
La à tout le monde. C'est vrai que c'est une bonne bière. Ça fait longtemps que je ne m'en suis pas pris, mais ben, j'aime mieux les bières sûres. Mais est-ce que toi, tu raffoles, je crois, Olivier?
Ouais, pas tant. Je suis pas rendu là encore dans mon palais.
Les bonnes bières sûres, là. Petits fruits, là.
Quand est-ce qu'In Flames vont sortir leur bière? Je pense qu'ils ont sorti leur fort, mais de la beer In Flames, faudrait checker, de Jester Beer.
Moi, je pense qu'ils attendent que Dark Tranquility sorte la leur pour tout de suite sortir la leur puis tenter celle de Dark.
Ça pourrait être mal.
Mauvaise foi.
Non, les preuves à l'appui.
In Flames ont repris, ont réenregistré plusieurs pièces de l'album Clayman pour qu'ils fassent comme hey, on a déjà fait quelque chose de beau, vous vous en souvenez? Regardez, on est encore capable de le faire. Fait que j'ai trouvé que les reprises étaient un peu moins bonnes que les originales, malheureusement.
Ouais.
Ben, In Flames, ils avaient déjà repris leur tour avec sur Pinball Map ou Beyond Space, là, qu'ils ont repris je sais pas combien de fois. Là.
Non, ouais, Beyond Space, ils l'ont repris 32 fois.
Je pense qu'il n'y a pas un album qui vient pas avec 2-3 covers dessus de Beyond Space et Remix.
Si In Flames, t'achètes un album d'In Flames puis il y a des tunes bonus dessus, il y a Beyond Space. Live ou réenregistré, il y a Beyond Space, c'est sûr.
Ouais, tout le temps.
Ou la version de Behind Space chantonnée par Anders sur la toilette, très populaire.
Également, oui. Plus difficile à se procurer, mais...
Dans Behind Space, je suis sûr qu'il y a un message subliminal d'Anders, c'est pour ça qu'il le met sur chaque album. Achète le prochain, achète le prochain.
Dans ce qu'ils ont réenregistré, ils ont, comme je trouve, ramolli un peu les pièces de Clayman.
Ben, In Flames ont été mous sur plusieurs points dans leur carrière, même si j'aime beaucoup In Flames. Moi, je me rappelle pour l'album Come Clarity, il venait avec un DVD Jam Studio, un peu comme Metallica avait fait. Et voilà, dit qu'il vomit. Non, mais c'est poche, sont d'une cuisine, puis tu sais, ils font de la synchro, puis c'est vraiment pas intéressant. C'était très mou, ça. Là.
Je pense que ça a été mon DVD qui m'a le plus déçu à vie.
Ouais.
Parce que moi, quand j'ai su ça, je dis ouais, je vais acheter la version, ça va être pareil comme Metallica, le band va jouer, ça va être cool de voir l'album live. Non, ils font du lip sync tout long. C'est carrément l'album avec le band qui fait du lip sync. Rendu là, pourquoi tu l'as pas fait? Je veux dire, tu le joues pareil.
Ben, tu sais, Metallica, quand tu checkes leur installation, puis tu checkais la cuisine où ce qu'ils jouaient, c'est la rue Saint-Marcel. Parce qu'il y a une flingue dans sa tête qui sont coincés.
Tu sais, tous ces efforts-là pour rien.
Non, c'est vrai ça, c'est pour rien. C'est que c'était. Non, c'était pas nécessaire. C'était pour vendre un digipack.
Ouais. C'est vrai qu'il est beau digipack, par contre.
Mais ouais. La pièce Pinball Map, probablement la plus réussie des réenregistrements, personnellement. Dans le fond, c'est elle qui ressemble le plus à l'original. Fait que...
Ouais. Il voulait donner une nouvelle saveur, puis ça a plus ou moins marché.
Donc, Megadeth et In Flames en auto-reprise.
Au lutin de l'enfer, on s'auto-reprend.
Alors, on parlait des différentes raisons pour lesquelles les bands réenregistrent des pièces. Eh bien, celle-là, c'est visiblement un changement de chanteur. Arch Enemy, qui ont repris Arch Enemy et la pièce Diva Satanica. Ils l'ont refaite en 2009, quand Angela est arrivée dans le band. Mais c'est une pièce quand même qui avait fait... une drôle de pièce, en fait. C'est sorti d'abord sur un Japanese bonus track en 1998. Après ça, un autre bonus pour tout le monde cette fois-là, en 99. Aussi sur le disque 2 de Wages of Sin en 2001. Mais toutes ces pièces-là étaient avec le chanteur original.
Ça, c'est un bonus de disque bonus. C'est la fois Wages of Sin. Hein.
Ils l'ont Beyond Space-isé. C'est le Beyond Space d'Arch Enemy.
Ouais. Puis en plus, Arch Enemy, ils ont quand même sorti souvent des éditions double CD ou des trucs de même. Il y avait un de leurs albums, je me rappelle plus c'est lequel, mais il venait en plus avec un micro CD, ce qui était censé révolutionner le monde du CD. puis ça n'a pas marché. Est-ce que D, ça rappelle des micro CD?
Ben en fait, c'est des CD, mais juste plus petits, comme un CD du GameCube, en fait, là.
Ouais, c'est ouais, GameCube ou PlayStation, PSP.
Ouais.
Ben comment ça marchait?
C'est juste plus lecteur. Petit.
Ouais, c'est pas mettre dans ton lecteur de char.
Non, c'est ça. Ben, ça dépend de comment que le tray est, le comment qu'il est fait, parce que le Wii, c'est comme un... Comme un char, puis la Wii prend les jeux de cube.
Mais il est fait pour.
Mais le CD est juste plus petit, en fait. C'est un peu comme... Ça fonctionne le même principe là, qu'un shape.
C'est un micro-sillon. C'est un micro-sillon tout petit.
Ouais, c'est le 45 tours des CD. Mais c'est pas pratique, puis c'est pas un format qui a marché tant que ça. Ça a marché beaucoup dans les caméras vidéo. Ma soeur avait une caméra vidéo à l'époque. Ouais. C'était des DVD plus petits pour enregistrer dedans. Mais à part de ça... C'est pas un format qui a percé tant que ça. Là.
D'ailleurs, je pense que c'est pour ça que quand tu rouvres les trays des ordi à l'époque, il y avait comme pour l'emplacement avec le CD, puis il y en avait un autre plus petit dans le milieu.
Ah,
ouais,
oui, c'est
en plein ça.
On a accommodé ce format.
Mais on est déjà rendu à la nouveauté de la semaine.
Plus besoin de faire la file au magasin de disques. Les lutins vous présentent la nouveauté de la semaine.
J'aime tellement comment que le de l'enfer rentre là. C'est comme si elle se faisait botter de là, tu tasse-toi de la file
de l'enfer.
Ouais, lui il attend pas, il fait pas la file, il kick la file puis il s'en va s'acheter le nouveau CD de Van Canto.
Ouais, je m'excuse, j'ai pas pu j'ai pas pu
c'est résister. Pour Guillaume, on avait dit à Guillaume que si un jour il y aurait du Van Canto, ça serait d'une raison obscure et là voilà.
Ouais, voilà. Désolé à tous les auditeurs, mais la bonne nouvelle, c'est que c'est la dernière pièce de la playlist, alors n'hésitez pas. Mais écoutez au moins les 4-5 premières secondes, parce que je pense que toutes leurs meilleures, leurs best-of d'onomatopées rentrent. T'as les Ramadabanamadam, t'as des Zoui-Zoui.
T'as des Ratakata.
Il fait écouter ça à mon boss aujourd'hui, il connaissait pas Van Canto, puis il a trouvé ça drôle.
Ah ouais, c'est la seule réaction possible.
Aujourd'hui, ils sont très bons, mais vos gueules, s'il vous plaît.
Si tu dis vos gueules, ils respirent grand chose, reste un beat.
Il reste le drame.
Il reste le drame.
Pour ceux qui connaissent pas Van Canto, ouais, ça, c'est un groupe allemand, ils sont 6 ou 7, mais 3 à deux à chanter, puis 3 à faire des dug-a-dug.
Et d'abord, ils font tous les instruments, mais avec leur bouche.
Ben, sauf le drum, ce qui est quand même dommage. Ouais. Il aurait pu avoir un beatbox avec eux autres. Ouais. Un gars, je parle, qui fait le beatbox, mm-hmm. Là, ça aurait été cool. Plus de mérite. Le groupe Pentatonix a un petit peu plus de mérite, plus sont plus avec des vrais a cappella. Ils n'ont pas d'instruments, sauf pour certaines pièces avec des collaborations.
Ouais. Puis Van Canto, cette fois-ci, sur leur dernier album qui est sorti, évidemment, cette année, ils ont repris... la pièce « Raise Your Horns » d'Amon Amarth. Alors, on parlait de la bonne voix de Johan Hegg tout à l'heure. Alors, vous allez comprendre à quel point elle est bonne quand vous entendrez les Van Canto tenter de faire le même style avec un succès mitigé.
Ouais, ça, on le perd d'un dug-a-dug, là. C'est... Alors, c'était très, très, très moyen comme cover. Autre que, on aurait pu dire, l'original est meilleur que le cover. Hein, et ça, loin, loin en plus.
Évidemment, je suis même pas sûr c'est légal de les comparer. Mais bon, c'est rigolo, ça fait sourire. Alors, je vous défie de toffer au moins, mettons, 20 secondes pour un bon défi.
Attendez au moins que le gars chante.
Ouais. Puis le refrain, si vous voulez entendre le contraste avec Johan, ça vaut la peine.
Ouais, quand j'ai écouté, je me suis rendu jusqu'au refrain, et puis quand je suis arrivé au refrain, j'ai fait comme « Eh, ouais, il y a de la misère. » C'est des souliers grands à porter.
Ouais, c'est ça. Alors, ben, on espère que vous avez apprécié ce spécial cover.
Ouais, ben, on espère, parce qu'on va en faire un autre éventuellement. Ça fait que... vous avez jusqu'à... Si vous n'avez pas aimé ça, réécoutez l'épisode. Réécoutez-le, vous allez finir par aimer ça.
Ouais.
Si vous connaissez des covers, n'hésitez pas à nous en suggérer. On est toujours à l'affût via les réseaux sociaux.
Oui, ouais, sur le Facebook Lutin de l'Enfer, le Instagram et le YouTube. D'ailleurs, le Lutin D avait posté dernièrement la vidéographie, pas vidéographie, mais discographie de Samael. très intéressant si ça vous intéresse. Allez visionner ça.
Ouais. Puis on s'en vient avec d'autres vidéos de discographie puis des vidéoclips. Imagine-toi donc.
Ben oui, en plus. Et voilà. C'est ça, les lutins.
Ouais.
C'est ça, puis un grinder à bière.
Alors, sur ce, les lutins, skull!
À la vôtre!
Beer! Beer!